voyait quelque chose, il voyait les lettres, il pouvait analyser en quelque sorte jusqu'à descendre au niveau des lettres qui avaient été nécessaires et pour créer la chose. Donc il pouvait, a posteriori, quand on lui montre quelque chose, il peut redescendre, analyser, décortiquer les choses et arriver jusqu'aux briques de fondamentales, en quelque sorte. Donc c'était une maîtrise complète, il allait d'un bout à l'autre du monde, etc. Mais la Torah, il ne l'avait pas. Il était Tselem Elohim, c'est-à-dire qu'il était extrêmement grand, il avait une kedusha, une sainteté, qui était telle que Chazal disent que les malachim, les anges de service, ils se sont prosternés devant lui parce qu'ils l'ont confondu avec le Créateur, tellement il était grand. Mais disons, avant, on parle d'Adam Arishon avant la faute. Alors la question qui se pose, bien entendu, c'est qu'est-ce qui manquait à Adam Arishon avant la faute que la Torah aurait pu combler? Puisque si on dit qu'il n'avait pas la Torah et que c'est présenté comme un manque en quelque sorte, il faut savoir quelle place il y a justement pour... Qu'est-ce que c'est que ce manque là? Bonsoir. Qu'est-ce que c'était que ce manque? Et deuxième point, c'est que la Torah viendrait combler ce manque. Alors on avait rapporté que lorsque le serpent a séduit Chava et Adam, en fait, il leur a fait valoir que la raison pour laquelle Elohim leur a interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance bien et mal, c'est parce que, lui, Akadosh Baruch Hu, il avait pu créer le monde grâce au fait qu'il avait consommé du fruit de cette... on ne sait pas très bien cette chose-là aurait été avant le monde exactement. Bon. Et donc, il ne veut pas que les hommes en mangent, parce que s'ils en mangeaient, ils seraient, comme dit Rashi, Yotzre Olamot. Ils seraient capables de créer des mondes aussi. Et il ne veut pas, il veut l'exclusivité. Ça, c'était là. C'est l'argument qui a séduit les hommes, enfin, Chava et Adam. Bien entendu, si le Nahash a utilisé cet argument-là, c'est qu'il savait que faire miroiter aux hommes cette possibilité d'être créateur de monde, c'était justement ce qu'il voulait, ce que les hommes voulaient. C'est-à-dire l'homme était bien conscient qu'il avait une compréhension totale du monde, il avait une analyse complète du monde, il peut savoir décortiquer complètement les choses, mais ça ne lui donnait pas le pouvoir de créer le monde. Et donc c'était leur désir. Le désir, c'est toujours le désir de ce qui manque, et le Nahash, le Yetzerara, le Nahash Mavet, c'est tout la même chose. Il vient justement leur proposer ce qu'ils veulent vraiment, en leur disant, ben voilà, vous pouvez l'avoir. Et donc ils ont cédé, et puis évidemment ils ne l'ont pas eu, parce qu'en réalité c'est avec le Yetzer Hara et pas avec le Yetzer Hadat Tavara qu'on peut créer des mondes, mais bon, ça c'est secondaire. Mais du coup, Adam Arishon, qui avait cherché à obtenir ça, ben, il ne l'a pas eu. Mais d'un autre côté, enfin, c'est pas d'un autre côté, mais il s'est cassé la figure avec ça. On avait rapporté après ce Pirkei Avot qui dit que Chavivin Israël Shinital Laem Kli Chemda et donc Chiba Yiteran Nodaat Laem, parce que Kli Chemda Shebo Nivra Haolam, c'est-à-dire nous savons que Akadosh Baruch Hu a créé le monde d'après la Torah. Il a créé la Torah et ensuite il a pris modèle sur la Torah qu'il avait créée pour créer le monde. La Torah est donc l'instrument qui permet la création du monde. Et cet instrument-là, comme manifestation de l'amour d'Hachem pour le clan Israël, Hachem l'a donné aux hommes, aux Bnei Israël. Donc ça veut vraiment dire que c'est ça. Là, si on demande qu'est-ce que c'est que la Torah, de ce point de vue-là, c'est le marchi, c'est l'instrument avec lequel le monde a été créé, et avec lequel on peut donc créer le monde. Oui, on va voir, on y vient. Alors, ensuite, il avait développé l'idée que nous, quand on entend créateur de monde, on dit que ça ne nous concerne pas, qu'est-ce que ça veut dire créer des mondes, ça ne nous concerne pas vraiment. Mais, disons, je pense le point important ici dans ce que le Rabbi a développé, c'est que ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'en réalité, créer des mondes, c'est ce que nous faisons en permanence. Seulement, il y a beaucoup de sortes de mondes. Il y a des mondes imaginaires, des mondes virtuels, des mondes du désir. Des mondes qui... Tous ces mondes-là, effectivement, l'homme les crée. On crée des mondes imaginaires... On crée des mondes virtuels, on crée des mondes de désir, on se construit des mondes entiers. Et par conséquent, la notion de création de monde ne nous est pas du tout étrangère. Mais si donc, et cette création de monde dont on parle maintenant, ce n'est pas la création du monde. Parce que ces mondes qui sont créés là, sont des mondes qui n'ont pas de durée au sens... La durée d'un monde, ça veut dire que le monde par lui-même dure. C'est des choses, c'est des fantasmes, ça va, ça vient, ça se défait, c'est pas des choses qui ont une durée, qui ont une véritable épaisseur. En d'autres termes, on est ici dans le monde de l'imaginaire, au sens large du terme, et là, ce que la Torah a permis de créer, c'est le monde du réel. Le réel, c'est-à-dire le réel et le durable. Chose qui a de l'épaisseur et qui a la durée, qui a l'éternité en fait. Et ça, la capacité que nous avons de créer des choses qui durent, vous voyez, ça peut se dire, créer des choses qui vont exister dans Olam Haba, c'est-à-dire dans tous les mondes, et exister dans l'âme basse, c'est-à-dire exister éternellement, cette capacité que nous avons de le faire, elle vient des mitzvot qu'Hachem nous a donné, la Torah qu'Hachem nous a donné. Vous voulez que, si on veut un peu... semble-t-il, se représenter un peu la chose, on peut utiliser ce dont on a parlé déjà assez fréquemment ces derniers temps. Une mitzvah, je vous ai dit, une mitzvah c'est en fait une espèce de triplet, en fait, qui est composé du metzavé, parce que le mot mitzvah, on peut le lire metzavé, c'est-à-dire celui qui donne l'ordre, qui donne la mitzvah, donc Hachem. Le metsouvé, c'est celui qui la reçoit, cette mitzvah, c'est l'homme. Et la mitzvah, c'est le trait d'union entre les deux. Et donc on peut comprendre comment se fait-il que nous ayons la possibilité de faire des choses qui ont cette durée, des choses qui touchent au réel. Eh bien, c'est parce que nous avons des mitzvot, c'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, je ne suis jamais seul quand je fais la mitzvah. J'ai la puissance que me donne le metzavé, celui qui m'a ordonné de faire la mitzvah. Bon, je peux plus que ce que je peux, plus que ce que je pourrais par moi seul, étant donné que justement je ne suis pas seul quand je fais une mitzvah.
Mais est-ce qu'on, c'est-à-dire on ne sait pas quoi ancrer par là?
Alors on ne sait pas exactement ce qu'on crée. On crée des valeurs sûres, quoi, des valeurs, enfin des valeurs ou des. On crée du réel, des choses qui sont véritablement réelles. Comment, qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce que c'est? Moi, en tout cas, je ne le sais pas.
Mais c'est dans le monde qu'on crée ou dans soi?
Non, on crée à la fois en soi et dans le monde, dans les deux. Nous sommes un monde et on crée dans le monde en fonction de la mitzvah. Si la mitzvah, c'est une mitzvah qui me concerne, et qui me concerne évidemment, comme me souviens, mais qui ne me concerne que moi, c'est-à-dire c'est quelque chose entre Hachem et moi, en quelque sorte, bon, ben alors... Ce que ça construit, c'est quelque chose dans le monde et ça construit chez moi. Si la mitzvah concerne quelqu'un d'autre, je construis aussi chez l'autre quelque chose. Comme quand on fait du chesed à quelqu'un, a priori on induit. Bien sûr que les gens ne sont pas obligés de suivre, mais a priori on induit un chesed en retour. Même du don, du contre-don, enfin toutes ces théories. Et c'est justement parce qu'on induit éventuellement quelque chose en retour qu'il y a un certain danger dans ces mitzvot. C'est-à-dire on peut très bien ne pas faire vraiment la mitzvah en tant que telle, parce que en fait ce que je veux, c'est pas tellement faire la mitzvah, mais c'est obtenir un résultat. Je veux le don en retour, je veux le retour. Et si en fait ma motivation c'est le retour, alors du coup c'est plus une mitzvah.
Parce que quand même les retours, ils peuvent être dans un autre sens, c'est-à-dire qu'avec la mitzvah de chesed par exemple, on peut montrer à l'autre.
Oui, je vous avais raconté.
Vous
avez raconté cette histoire que raconte Pessah Kron. Il avait raconté que il est devenu orphelin, enfin, relativement jeune, et bon, il n'avait pas trop d'argent, et lui, il avait appris Moël. Et comme il était très jeune, les gens ne se bousculaient pas pour lui demander de faire la mila. Il y avait des gens qui préféraient quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience, etc. Bon, ça démarrait très lentement. Et un jour, à la choule, il y a quelqu'un qui lui a dit, écoute, je sais que vous avez un peu de difficulté, et voilà. Je crois qu'on vous donnait 50 dollars de l'époque, je ne sais pas combien c'était. Alors il a dit, mais écoute, je ne peux pas prendre, on n'est pas à l'aise, on n'est pas très riche, mais je ne suis pas suffisamment pauvre pour prendre de la tzedaka. Il a dit, c'est pas de la tzedaka, c'est un prêt. Tu me rendras quand tu pourras. Alors il est rentré à la maison, il s'est d'abord fait engueuler par sa mère parce qu'il avait accepté le prêt. Bon, il a accepté, il a dit c'est un prêt. Et il dit, dès que j'ai pu gagner un peu d'argent, je suis venu pour rembourser cette personne. Et quand j'ai voulu le rembourser, il a dit non, je ne prends pas. Alors je lui ai dit, mais ça ne va pas, moi je n'ai accepté ça que parce que tu m'as dit que c'était un prêt, maintenant je veux te rendre. Alors il lui a dit, non, je ne prends pas, mais je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire. Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans la même situation que toi. Il y a quelqu'un qui m'a fait la proposition que je t'ai faite. Et quand j'ai voulu le rembourser, ben, il m'a dit, non, je ne prends pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être c'est l'autre qui le lui a induit, en fait. Ben, au lieu de lui rendre à lui, j'ai fait la mitzvah avec toi. Donc en fait, la mitzvah que je fais, c'est grâce à celui-là. Donc, quelque part, je lui ai rendu bien plus que de l'argent, parce que je le rends responsable, positivement, de toute la chaîne qui va se... A priori, si les gens y comprennent bien ce qui se joue, c'est une chaîne qui peut aller jusqu'à la fin des temps. D'accord ? C'est chaque fois, il faut... Et donc, c'est comme tu dis, c'est-à-dire qu'on peut induire chez quelqu'un De faire du chesed. En lui faisant du chesed, on peut induire son comportement. On lui montre, et puis on lui montre que c'est agréable. Donc on peut, si vous voulez, je dis seulement ça pour se familiariser un peu avec cette idée que nous sommes capables de faire des choses qui nous dépassent évidemment. Par exemple, si vous voulez, on pourrait dire que cette mitzvah-là, telle que on l'a décrite de Tzedaka, c'est vraiment une mitzvah qui va jusqu'à Olam Haba. C'est une mitzvah à laquelle on a donné la durée. C'est une mitzvah qui, à la limite, on pourrait dire, bon, ben, la mitzvah qui a été faite, s'il avait accepté qu'il le rembourse, bon, voilà, la boucle est bouclée, c'est une mitzvah, c'est formidable, etc. Mais là, il faut penser que ce qui a été construit dans le futur, dans Olam Haba, dans le grand futur, bon, c'est, je ne sais pas ce que c'est. Tandis qu'ici, tu posais la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait, ben voilà, on a construit une chaîne, et là, j'ai construit quelque chose qui est durable, qui est, a priori, qui n'a pas de raison de s'arrêter. Si personne n'arrête la chaîne, ça ne s'arrêtera pas. Voilà, donc, c'est ça que Adam Harishon n'avait pas. Quand on dit que la Torah n'a pas voulu aller chez Adam Harishon, puisqu'il n'avait pas réussi l'épreuve qui était la sienne, enfin, elle ne voulait pas y aller d'abord, mais au départ, elle a dit, je n'irai seulement chez lui que s'il réussit telle et telle épreuve, et il n'a pas réussi, donc la Torah n'est pas allée chez Adam. Mais le clan Israël a reçu ça. Et le clan Israël a reçu ce trésor, en fait. Je vais donner un exemple de quelqu'un qui connaîtrait parfaitement un réseau, par exemple un réseau électrique, ou quel que soit le réseau, mais qui n'aurait pas accès à l'interrupteur principal. Donc s'il y avait du courant, il saurait exactement tout ce qui se fait, etc., dans ce réseau, mais l'interrupteur principal, il n'a pas accès à ça. Ça, c'est Adam Harishon. Il comprenait parfaitement ce qui était devant lui, mais il ne pouvait pas le mettre en marche. La Torah, elle permet d'avoir accès à cet interrupteur principal. C'est-à-dire de créer vraiment un circuit qui fonctionne. Il y a un chazal qui dit que, qui rapportait donc que les Malachi Hasharet interrogent Hachem et lui demandent c'est quand Rosh Hashanah ? Parce que tout le monde est jugé, donc. Alors, Hachem répond, mais il faut aller consulter le Beddin Shelmata. Il faut consulter le Beddin d'en bas, puisque c'est eux qui décident. Le Kadesh Israël ve'Azmanim, c'est-à-dire Hachem donne la Kdusha au clan Israël, qui à son tour décide des Zmanim, des temps. Et donc, c'est les Israël qui vont décider quand sera Rosh Hashanah. Donc, ça veut dire, dans tous les mondes, et en vérité, il va y avoir un statut complètement différent, si c'est Rosh Hashanah aujourd'hui ou demain, etc. Ça change beaucoup de choses. Toutes sortes de conséquences. Évidemment, nous, on n'a pas vraiment compréhension profonde de ce que ça représente, cette puissance qui a été donnée au tribunal, enfin disons, au Beddin Shelmata, par exemple. Mais on peut se représenter que les choses ne sont pas comme nous les imaginons, donc on avait vu ça aussi, que quand Hachem a créé le soleil, la lune, les étoiles, le pasouk dit Vehayu lim orot birkia shamaim, ces luminaires seront dans le ciel, et quelle sera leur fonction? C'est que, avant cela, avant de dire qu'ils étaient des meorot, des luminaires, le pasouk dit ils seront dans le ciel, et le havdil ben ayom ou ben alayla, pour faire la différence entre le jour et la nuit, mais vehayu le otot le moadim ou le yamim veshanim. Ce sont des signes, c'est-à-dire en fait, ils vont servir à fixer le temps, fixer le nouveau mois, le mois, l'année, les jours, la longueur des jours, etc. Et Rashi explique que quand on le verset dit d'abord cela, puis ensuite il dit ils vont s'y illuminer derrière, Rashi dit ve'od zot, en plus de d'être ce qui va permettre de scander, de fixer le temps, ishamshu sheyayiru la'olam, ils vont s'y servir à éclairer le monde. Donc dans ce que Rashi nous explique, parce qu'il explique l'ordre des versets, c'est-à-dire que éclairer dans le monde, ça se présente ici comme quelque chose, comme un effet secondaire. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la fixation du temps. Et pourquoi la fixation des temps est plus essentielle que d'éclairer? C'est parce que la fixation du temps, elle est liée à toutes sortes de mitzvot sont liées à la fixation du temps. Et donc, parce qu'on peut faire des mitzvot qui construisent le monde, qui construisent durablement le monde, c'est-à-dire qu'ils construisent aussi Olam Haba, alors cette fonction-là est plus importante que la fonction d'illuminer. À la fin des Mishnayot, il y a un texte qui dit « Atid HaKadosh Baruch Hu latet l'kol tzadik v'tzadik shai olamot » Dans le futur, Hachem donnera à chaque tzaddik, il lui donnera 310 mondes. Shai, Shin Yud, c'est 310 mondes. D'où est-ce qu'on sait? C'est marqué dans le pasouk, le hanchil ohavai yesh. Pour faire hériter à ceux qui m'aiment, yesh. Yesh, c'est Yud Shin, Shin Yud, c'est 310. Et Chazal demande, Minaïn, d'où viennent ces mondes-là qu'Hachem va donner à chaque tzaddik? Eh bien, ils viennent comme conséquence du travail de chaque tzaddik sur terre. Yesh, c'est le mot qui... Yesh, ça se traduirait par Ilia. L'Ilia, si vous parlez comme ça, c'est-à-dire il y a quelque chose de réel. Quand il y a, ça veut dire il y a du réel. Et donc, ces mondes, en fait, 310 ici, c'est simplement un jeu de mots pour dire 310, il faut le retourner et voir que c'est le Yesh. Il va donner des mondes à chaque tzaddik, parce que le tzaddik a fabriqué ces mondes, il va les lui donner, ces mondes. C'est-à-dire, on va les recevoir, à la limite, ces mondes dont on ne sait pas exactement ce qu'ils sont et comment ils sont agencés, etc., eh bien, à la fin des temps, on le saura. Hachem nous les donnera à la fin des temps, enfin d'où, il donnera à chaque tzaddik ce qu'il aura fabriqué justement, la réalité de ce qu'il aura fabriqué, enfin, ce qu'il aura fabriqué de réel plutôt. Ça veut dire que tout ça, on le fabrique, puisqu'on crée les mondes, avec quoi est-ce qu'on le fabrique? Avec la Torah. Ça ne se fabrique pas avec la prophétie, ça ne se fabrique pas avec le Ruach HaKodesh, avec une inspiration, etc. Ça se fabrique en étudiant la Torah. Au point que la Gemara rapporte la fameuse histoire entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, où Rabbi Eliezer a apporté des preuves que la Halakha était comme lui, il a dit « si la Halakha est comme moi », alors que les murs du Beit HaMidrash s'inclinent, que le ruisseau remonte à sa source, etc. Et la Gemara dit, Amad Rabbi Yoshua al-Raglav, Rabbi Yoshua s'est levé, il a dit, on ne s'occupe pas, la Torah elle n'est plus au ciel. L'homme Hashamayhi, c'est nous qui décidons. Et donc Hachem, c'est une façon de dire Hachem, tu peux faire ce que tu veux comme cinéma, ça ne nous impressionne pas, c'est nous qui décidons. Pourquoi? Tu nous as donné la Torah, c'est nous qui décidons. Rabbi Nissim, qui est un grand maître du Moyen-Âge espagnol, il s'est posé la question qu'on doit se poser. Si, parce qu'on appelle ça une bat kol, c'est-à-dire cette espèce d'écho là, qu'on, qui se manifeste ici, une manifestation d'Hachem, de la volonté d'Hachem. Si on ne s'en occupe pas, si effectivement c'est pas, ça ne nous importe peu, ça nous importe peu, ça n'importe pas, si on veut, dans la fixation de la halakha. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem l'envoie? Pourquoi est-ce qu'Hachem nous envoie des messages dont on n'a pas le droit de tenir compte en quelque sorte? Alors Rabbeinu Nissim disait, ben c'est justement ça. C'était une épreuve pour savoir si les Chachamim avaient bien compris ce que ça voulait dire que la Torah vous a été donnée. Ou s'ils allaient être impressionnés par une irruption en quelque sorte d'Hachem dans le monde. C'est un isayon, c'est une épreuve. Et réussir l'épreuve, ça veut dire ne pas se laisser impressionner. Parce que c'est plus comme ça que ça fonctionne. Il y a eu un moment où c'est Hachem qui a créé le monde, ok, c'est bon. Maintenant, c'est la création du monde, elle a été confiée aux hommes en leur donnant la Torah. C'est eux qui ont la Torah. Au point que la Gemara, elle rapporte qu'on a demandé à Eliyahu Hanavi, il y avait dans la Gemara rapporte une discussion entre un certain Rav Aviatar et Rav Eliezer. Et à ce moment-là, quelqu'un a demandé à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'on dit là maintenant dans la Yeshiva Shel Mala? Qu'est-ce qu'on étudie dans la Yeshiva d'en haut? Alors, il a dit, en ce moment, Akadosh Baruch Hu est en train de dire, Eviatar, mon fils, il dit comme ça, et Rabbi Meir, il dit comme ça, et Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on apprend dans la Yeshiva d'en haut? On apprend ce que disent les Chachamim, puisque la Torah nous a été donnée à nous. Donc c'est nous qui décidons. Donc vous voyez, c'est la Torah elle-même est devenue ce que les Chachamim en font. Donner la Torah aux hommes, ça veut dire c'est vous qui allez fabriquer la Torah. Mais parce que fabriquer la Torah, si vous voulez, c'est fabriquer ce qui va permettre de fabriquer les mondes. Puisque la Torah, c'est ce qui permet de fabriquer les mondes, d'inventer, de fabriquer les mondes, oui. Et maintenant que les hommes ont cette Torah, que c'est eux qui... Avoir la Torah, ça veut dire que c'est nous qui devons la développer, et que au ciel aussi... On va dire les choses en fonction de ce que les hommes disent. Donc fabrique les mondes, en fait.
Je sais que c'est impossible, mais cependant, je me pose quand même une question. Qu'est-ce qui protège la Torah? Parce que on crée les
oui.
mondes, mais on s'appuie sur la Torah, mais elle n'est pas fixe, c'est une Torah de vie, vous nous avez dit, elle bouge.
Mais c'est nous qui l'avons bougée.
C'est nous qui l'avons bougée.
Donc à partir du moment où nous la faisons, c'est comme une forme d'évolution, si vous voulez.
Mais qu'est-ce qui la protège de ce qu'elle, de la volonté? Est-ce qu'à chaque début, j'avais bien une idée très fermée?
Non, parce que vous prenez Hachem comme si c'était un homme.
Non, je sais bien que non.
On ne sait pas ce que c'est Hachem.
Oui, c'est-à-dire qu'il parle des mondes spirituels, parce qu'il ne peut pas créer des mondes physiques.
Mais on crée des mondes. Les mondes spirituels, en fait, ce sont ces mondes-là qui gouvernent les mondes physiques. Il y a des endroits, qu'est-ce que c'est marqué? Quand Hachem a créé le monde, déjà, la première occurrence de l'homme dans le monde, oui, où elle est sous forme d'absence. C'est-à-dire, quand Hachem a créé le monde, il a créé les végétaux, mais rien ne poussait. Et la Torah dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme. On explique pourquoi il n'y a pas d'homme. Parce que l'homme n'a pas encore été créé, on a créé les végétaux avant l'homme. Mais comment? Ben ça ne pousse pas. Parce qu'il n'y a pas d'homme pour prier pour la pluie. Donc ça, c'est un monde extrêmement physique. Ce monde-là, il dépend de la prière. Si on ne prie pas, ça ne marche pas.
Parce que chez moi, je n'ai pas compris, moi. Parce Mais en fait, on n'a pas de garde-fou, puisqu'on travaille sur notre garde-fou. On éclate le garde-fou.
Est-ce que là, l'évolution elle a un garde-fou?
Non, mais justement, on a fait des folies avec la Torah.
Non, mais avec la... Le seul moyen qu'on ait, c'est d'abord ceux qui fabriquent une Torah qui veut dire quelque chose, c'est-à-dire, si vous voulez, quand on dit fabriquer la Torah, c'est faire des chidouchim, oui. Faire un chidouch, ça ne court pas les rues, c'est peu fréquent. J'ai entendu tout récemment quelqu'un qui racontait que ça n'a rien à voir avec la Torah, mais c'est même ordre, que Paul Valéry, c'était il est connu comme un radin. Et chaque fois qu'il avait une idée, il avait un carnet, il écrivait dans son carnet. Un jour, il a rencontré Einstein. Et il lui a demandé, mais maître, comment vous faites pour garder vos idées? Oh, il a dit, oh, vous savez, des idées, il n'y en a pas souvent. Il croyait qu'il avait des idées. C'est Henri Michaud, je crois, qui disait, hein, quelqu'un, tu crois que tes élucubrations, c'est des idées. C'est la même chose, c'est-à-dire, on dit de Rav Chaim de Volozhin, l'élève du Gaon, qu'il a dit, je donne toute mon étude pour un chidouche. Il n'était pas sûr d'avoir fait un seul chidouche dans toute sa vie. Un vrai chidouche, qui n'est pas l'histoire de bout de ficelle, mi-bout, c'est tellement énorme. Mais ça, il faut, ça c'est Rabbi Akiva ou ces gens-là. Et par la suite, il y a eu, Nevina justement, d'autres comme ça, qui ont fait des chidouchim. Mais ça, alors ça, si vous voulez, bon, on en tient compte ou on n'en tient pas compte. Par exemple, ça, vous avez le fameux Rabbi Meir. D'accord ? Là, la halakha n'était jamais comme Rabbi Meir. Pourquoi ? Parce que Rabbi Meir, il était tellement fort qu'il pouvait prouver tout et son contraire. Et donc, on n'avait pas de contrôle sur ce qu'il disait, on ne pouvait pas vraiment le contrôler. Donc, la halakha est systématiquement jamais comme lui. On retient ce qu'il dit, c'est intéressant, on se développe. Mais la halakha est jamais comme lui, parce qu'on n'a pas de contrôle. Le contrôle, c'est la discussion. Et les choses sont remises dans l'Agmara, ça dure des générations jusqu'à ce que les choses se clarifient. Quelqu'un dit une idée, c'est repris, c'est critiqué, etc. Quelques générations plus tard, ils disent, ouais, mais là, il y a une contradiction, etc. Et donc, c'est ça le garde-fou. Le garde-fou, c'est le fait que on remet ça, c'est jamais complètement acquis, c'est toujours susceptible d'être discuté. Bon, il y a des choses qui sont devenues indiscutables parce qu'on les a tellement discutées, on les a tellement... Par exemple, dans le domaine de la halakha, il y avait, au Moyen-Âge, il y avait un grand maître qui s'appelait un Meiri, qui habitait Perpignan. Et il a écrit surtout, par exemple, pratiquement tout, voilà, tout ce qui est là-haut, là, jusqu'au rouge, par exemple, c'est tous des livres de lui. Ouais. Il a écrit sur toutes les Maseret, il y en a encore d'autres. Et on avait perdu ces manuscrits. Alors on avait des échantillons, des morceaux que d'autres avaient cités. Mais les manuscrits, on les avait perdus. Et puis au XXe siècle, en fait, on a retrouvé beaucoup de ces manuscrits dans une bibliothèque à Parme et à la BN. Et alors ça a été édité, alors voilà, on les a maintenant. Mais le Chazon Ish avait dit que on ne peut pas utiliser ça pour la halakha. Parce que comme ça n'a pas passé à la critique de toutes les générations, c'est intéressant, mais on ne va pas utiliser ça. On ne garde pas quelque chose, disons en tout cas dans la halakha, si ça n'a pas subi la critique de toutes les générations qui ont malaxé cette histoire, qui l'ont confronté à toutes sortes de choses. Non, on n'en tient pas compte.
Donc c'est une évolution très très lente.
Mais c'est comme ça, la vraie évolution est toujours très lente. Sauf quand il arrive un Rabbi Akiva qui... Lui, c'est la bombe.
Et quand certains... Je parle dans le domaine du Moussard, comme
C'est la Kabbalah, en termes de Kabbalah, c'est pas nous ça.
Moi, c'est pas trop, j'ai tout ça dans la tête, mais je me dis, est-ce que c'est pas du gâchis, est-ce que c'est
peut-être
pas, c'est osé quand même de faire ça.
Alors, c'est comme ça, vous savez, même le Rambam, on a brûlé son œuvre, on n'avait pas tout brûlé, donc on les a gardés, mais ça a été brûlé à Montpellier, enfin, dans le sud de la France, on a brûlé les œuvres du Rambam.
Et ceux qui le brûlent, c'est une protection ?
Ils pensaient, eux, que le Rambam était trop influencé par Aristote. Alors, on voudrait quand même comprendre un peu mieux comment la Torah qualifie l'homme pour devenir un créateur de monde. Comment est-ce que la Torah lui donne quelque chose qu'Adam Arishon n'avait pas, même avant la faute? Alors, je vous avais apporté, enfin, ce qu'il disait ici, c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, il ramenait un Chassid Yavetz, qui est aussi un grand maître espagnol qui a commenté Pirkei Avot, et qui parlait de la Mishnah qui dit, au nom de Benazai, dit, Everatz le mitzvah kala, chamura, c'est-à-dire, cours pour accomplir une mitzvah qui te paraît une mitzvah légère, comme tu courrais pour pratiquer, pour faire des mitzvot qui te paraissent lourdes. Alors, le Yavetz dit, Benazai dit, il nous enseigne ici quelque chose concernant la mitzvah du Yichud, c'est-à-dire la mitzvah de reconnaître que Hachem est Echad. Yichud d'Hachem, c'est l'unité, l'unicité d'Hachem, la singularité absolue d'Hachem. Et il vient dire ici, lui il le dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut se bouger pour une mitzvah qui nous paraît légère comme pour une mitzvah qui nous paraît plus importante, dit-il, c'est en fait nous dire que toutes les mitzvot sont liées les unes aux autres. Ça forme un tout, en réalité. Et il dit, de la même manière que Hachem est Echad, sa Torah est aussi Echad, elle est aussi une. Et donc, sur le modèle de l'être humain, qui est un, bien qu'il soit formé de toutes sortes de membres, de parties du corps, donc, et de tendons, enfin, de liaisons, en fait. Et cet homme, il est Betzelem Elohim, il est à l'image d'Elohim. Il contient en lui tous les mondes. C'est pour ça qu'il pouvait tout comprendre. Ce qu'il dit ici, c'est que la Torah, il fait une différence entre l'homme qui est Tselem Elohim et la Torah qui est Tselem Hashem. Il y a une notion qui s'appelle Tselem Hashem. Le Hashem, ça veut dire le tétragramme, Yudke Vavke. C'est le plus grand nom. Donc ça, c'est une forme concernant le plus grand nom, c'est-à-dire c'est une forme qui est la forme de l'unité complète, si vous voulez. L'unité parfaite. Donc l'homme, avant la Torah, même quand il est parfait, il n'est jamais que Tselem Elohim. Toute la Torah, dit Ramban, la Torah c'est une suite de noms divins, en fait. Et tous ces noms divins, Elohim, Shakai, Kel, etc., tous ces noms divins sont en fait une espèce de tissage autour du nom central, du nom principal qui est le tétragramme. Donc tout l'existant qui provient du tétragramme, parce que le tétragramme ça se lit Haya, Hove, Veiye, Mehave, Akol, c'est-à-dire c'est le verbe être, si vous voulez, à tous les présent, passé, au futur, et il fait exister toute chose. donc, en fait, ça veut dire que toute la Torah d'Hachem, elle est une parce que elle est simplement... Elle est le nom d'Hachem, en fait. Elle est le nom d'Hachem, on peut presque dire, décliné, enfin, dit de toutes sortes de manières. Parce que dans le pasouk, c'est marqué « Atorah ve'hamitzvah ». Normalement, on aurait dû dire « Atorah ve'hamitzvot ». Il y a 613 mitzvot. Mais justement, ça vient dire ici que toutes les mitzvot sont liées les unes aux autres. Et on voit très bien que le clan d'Israël, quand il a reçu la Torah, il était dans l'état qui était le seul état qui lui permettait de recevoir la Torah. Il était uni, complètement uni, comme on dit, Kish Echad Belev Echad. Vous savez bien que quand la Torah décrit les pérégrinations des Bnei Israël, à chaque fois où ils arrivent à quelque part, on dit Vayachanu, ils ont campé, au pluriel. Et quand ils arrivent au pied du Sinaï, c'est marqué Vayichan Sham. Il a campé. Le clan d'Israël s'était entre-temps unifié. Ils ont construit, il a fallu fabriquer une véritable unité. Et c'est ça qui était la condition nécessaire et suffisante, enfin nécessaire en tout cas, pour recevoir la Torah. La Torah étant la Torah d'Hachem, Hachem et Echad, la Torah Echad, enfin Achat. Et donc, il faut que ceux qui reçoivent la Torah doivent aussi être dans cet état d'unité. Dans Tselem Elohim, tous les mondes sont dans ce Tselem Elohim. C'est la forme dans laquelle s'inscrivent tous les mondes. Toutes les forces du monde aussi. L'homme, d'une certaine manière... Il est comme Elohim, la traduction, si on peut, ou l'interprétation du nom divin Elohim, ça veut dire Baal Kol HaKochot. Il est le maître de toutes les forces. Chaque force, d'une certaine manière, est appelée Elohim. Un tribunal s'appelle Elohim dans la Torah. C'est une force, il y a une puissance. Toutes les forces, si vous voulez, on peut dire, il y a des Elohim, la gravitation c'est un Elohim... Tout ce qui existe comme énergie, etc., dans le monde, ce sont toutes des Elohim. Et au-dessus de ça, les contenant tout, toutes ces forces, il y a Elohim. Il est le maître de toutes ces forces. Mais, comme nous disons, Hachem, où est Elohim? Le nom divin est au-dessus, et il se manifeste certaines fois sous forme d'Elohim. Mais avec, c'est ça le grand Yosef, c'est que le Tselem Elohim, quand on n'a que le Tselem Elohim, on est le maître de toutes les forces. Mais on est encore dans le monde. Le maître des forces, mais à l'intérieur du monde. Sortir du monde, dominer le monde, ça n'est pas possible pour Tselem Elohim. Dominer le monde, ça voudrait dire être capable de le créer. Ça, c'est pas possible avec Tselem Elohim. Parce que Tselem Elohim est immanent, quoi, si vous voulez. Ça reste à l'intérieur. C'est une construction. D'accord, il est au-dessus, etc. Mais tout ça, c'est à l'intérieur du monde. De notre monde. Elohim, c'est quand Hachem s'occupe du monde, et qu'il, à ce moment-là, il se présente comme Elohim. C'est pour ça que le récit de la création est au début construit uniquement avec Elohim, il n'est pas construit avec Hachem. Après, par la suite, c'est Hachem et Elohim.
Et quand on quitte ce monde, mais la force reste.
Quelle force? La Neshama, elle reste.
Oui.
Mais elle ne reste pas dans ce monde.
Elle ne reste pas dans ce monde, alors.
La Neshama, elle ne voulait pas descendre de la même manière. Hachem se manifeste dans le monde par Elohim, si vous voulez. De la même manière, comme on dit, la Neshama, elle est Chelek Eloka Mima'al. Elle est une partie de la divinité du Elohim. Mima'al, ça vient d'en haut. La Neshama, elle est en haut, mais seulement on l'a forcée. Enfin, Hachem l'oblige à descendre dans ce monde. Et après, quand elle est, une fois, elle est prisonnière dans le corps.
Oui.
Quand le corps n'est plus là, elle s'en va. Elle n'est plus prisonnière.
Et
elle rejoint le monde des âmes. Le monde des Neshamot.
La source divine.
Pardon ? Elle rejoint. La Neshama, c'est pas. C'est quelque chose déjà dans une émanation de la divinité. Ça, je ne vais pas parler de ça.
Et la force, quand on dit que chaque force s'appelle Elohim, donc ces forces-là découlent d'une force unique.
Oui.
Est-ce qu'on peut glisser dire
le maître, le Baal, Kol HaKochot, le maître de toutes les forces.
C'est-à-dire, c'est Hachem, c'est Dieu.
Oui, mais c'est, si vous voulez, c'est Elohim d'abord.
Oui.
Parce qu'on parle ici d'une. Si vous voulez, c'est comme le chapeau qu'on a trouvé sur toutes les forces, il est dans ce monde-ci, ça. Et ça, c'est une manifestation d'Elohim, mais pas de. Et pas d'Hachem directement. Il faut une dégradation, si on peut parler comme ça, jusqu'à ce qu'on descende au nom divin Elohim, qui n'est pas le même nom divin. Enfin, il y a plusieurs noms qui ont déjà le niveau non divin, tel qu'on n'a pas le droit de les effacer, etc. Et après, il y a le tétragramme, ça, c'est, celui-là, il est complètement hors. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui étudie la Torah, qui pratique les mitzvot en vérité, il acquiert ce tselem, cette forme plus élevée que tous les mondes. Tselem du nom divin, du Shem Havaya, du tétragramme. Il devient Davouk Bashem, Dvekim Bashem, qui colle à Hashem littéralement. Et là, à ce moment-là, il a accès à ce fameux interrupteur dont on avait parlé avant, dans l'image. Celui qui est Davouk Bashem, il a une force, littéralement divine, en fait, qui lui permet de créer des mondes.
La force divine, on l'avait, mais là, il a purifié.
Non, c'est un nouveau niveau. C'est un nouveau niveau, si vous voulez, parce que Adam Harishon, il ne pouvait pas, même s'il avait fait plus que ça, tant qu'il était seulement Tselem Elohim, il n'était pas Tselem Hashem. Si la Torah ne lui est pas donnée, il ne peut pas y arriver.
Il y a sûrement des personnes qui ont accès à cet interrupteur.
À quoi ?
À cet interrupteur là, dans l'image. Il y en a, mais ça ne s'est jamais vu. Il y en a.
C'est dit ici. C'est dit ici que celui qui est vraiment Davouk Bashem, il a accès à l'interrupteur en question.
Je veux dire, vous qui avez étudié tout ça.
Oui, j'ai étudié, oui. Mais j'ai aucune idée.
Est-ce que, même si vous ne voulez pas nous le dire, mais est-ce qu'il y a des noms
ben justement, même si je ne voulais pas vous le dire, je ne vous le dirai pas.
Non, je sais
pas. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup de mal à ne pas vous le dire, je ne sais pas. Je pense que mon maître était de cela, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Je pense. Pardon.
Je n'ai pas compris avec le Tselem Elohim. Vous avez dit qu'il maîtrise toutes les forces.
Oui.
À l'intérieur de ce monde.
Oui, il est dans ce monde.
Il est dans ce monde. Mais c'est tous les Israël.
Si.
Uniquement ceux qui étudient la Torah.
Non, ça c'est même. Cette maîtrise-là, elle vient du Tselem Elohim, elle vient de l'homme. Ce qui s'est passé. Maintenant, il faut que je fasse. Quand vous dites. Seulement celui qui étudie la Torah, c'est pas faux, mais il faut expliquer pourquoi c'est seulement celui qui étudie la Torah. C'est parce que l'homme normalement, Adam Harishon, il le faisait, il maîtrisait. Mais, oui, mais il n'était pas, il ne pouvait pas créer. Il maîtrise les choses, il comprend les choses. Maîtrise les forces, en question, il ne peut pas créer. Seulement Adam Harishon, il a fait une faute. Et cette faute, ça l'a fait dégringoler au point de ne plus maîtriser par lui-même. Et donc, l'être humain ne peut plus maîtriser ces choses par lui-même. Et d'une certaine manière, on s'appuie pour ça sur le navire d'Ephesquel, c'est marqué « Atem kruim Adam », c'est-à-dire les Juifs sont appelés Adam maintenant. C'est-à-dire Adam s'étant disqualifié, il n'y a plus d'Adam. Le Adam tel qu'il était, ben, il n'existe plus sous cette forme-là. Et maintenant, les Bnei Israël deviennent Adam. Eux, les Bnei Israël avec la Torah, ils peuvent faire ce travail que Adam faisait lui sans Torah. Mais plus personne ne peut faire le travail parce que on n'est plus au niveau d'Adam Arishon avant la faute. On est après la faute. Maintenant, le Adam qui peut faire le travail de Adam, c'est-à-dire le juif avec la Torah qui peut faire le travail d'Adam, normalement, s'il faisait pratiquer la Torah de façon parfaite, s'il était d'Avouk Bachem, il serait plus que Adam Arishon. Puisque lui, par la Torah, on peut créer les mondes. Ce qu'Adam ne pouvait pas faire.
Et là, un homme unique, il ne faut plus pas que ce soit lui.
Pardon ?
Un homme unique peut faire ce chemin. Parce que des fois, vous dites que c'est pour le clan.
Ça, c'est dit sur les hommes. Ça c'est une condition, ça c'est une condition sine qua non. Oui. Il faut encore arriver, c'est pas seulement. Enfin, dans cette perfection-là, hein, effectivement, on est. C'est ça.
Donc il a plus de choix, il est comme un ange.
Mais il a choisi d'être. Oui, il est mieux qu'un ange. On est plus élevé que les anges.
Son choix est encore mieux.
Parce que les anges, ils n'ont pas le choix. En fait, on a un exemple de quelqu'un dans la Torah qui, lui, est arrivé plus haut qu'Adam. C'est Betzalel. Le Betzalel qui construit le Mishkan, c'est marqué « Yada Betzalel et Tzaref Otiyot Shebaem Nivra Haolam ». Que Betzalel, il savait mettre bout à bout les lettres avec lesquelles le monde a été créé. Donc, lui, il sait prendre des lettres et fabriquer. C'est ce qu'il a fait. Il a construit le Mishkan. Le Mishkan, c'est un monde en petit. C'est une image du monde. Ou si vous, moi, je comprenais un peu mieux en disant, c'est une espèce de tableau de bord du monde. Parce que dans un tableau de bord, vous avez le monde dans le tableau de bord. Est-ce que vous pouvez diriger le monde en question en dirigeant sur ce tableau de bord. Donc, le construire, c'est construire le monde. C'est ce qu'on dit. Comment il a pu construire, lui, Betzalel, le Mishkan? Parce que Yada, le Tzaref, il savait, le Tzaref, ça veut dire mettre bout à bout, mais ça veut aussi dire, un Tzoref, c'est aussi un orfèvre. C'est aussi un orfèvre, les gens qui travaillent l'or, l'argent, etc. Et qui, pour pouvoir travailler ça, il faut être capable de fabriquer de l'or ou de l'argent pur, ou en tout cas éliminer les scories. Et donc, le tzarev, ça veut dire aussi éliminer les scories, ça veut dire que probablement que les lettres elles-mêmes, telles qu'elles étaient là pour Betzalel, ces lettres, elles étaient dans ce monde-ci. Betzalel, il a créé un Mishkan dans un monde dans lequel il y avait du mal, il y avait, etc. Il y avait toutes sortes de beaucoup de scories, en fait. Et donc, on peut imaginer que les lettres qu'il a voulu utiliser pour fabriquer, il a fallu d'abord les nettoyer, en fait. Il a fallu d'abord enlever toutes les scories qu'il y avait dans ces lettres pour qu'elles puissent justement s'associer parfaitement et fabriquer vraiment, que si vous voulez, sinon c'est comme s'il y avait un parasite, ou c'est comme s'il y avait vous voulez produire quelque chose, mais il y a du bruit sur la ligne, alors ça ne va pas, votre message ou votre musique, etc., elle ne peut pas s'entendre, parce qu'il y a il y a de la friture, il y a du bruit sur la ligne, c'est quoi? C'est les scories, c'est des éléments qui ne devraient pas être là, et qui faussent, qui font qu'on n'entend pas bien. Donc on peut imaginer que les lettres du temps de Bezalel, Yadal et Saref, je voudrais le lire des deux manières. Ils savaient les mettre bout à bout, mais ils savaient aussi comment les nettoyer, c'est-à-dire comment enlever les scories de ces lettres pour pouvoir les mettre vraiment bout à bout.
Un
contient pas l'autre, mais parce que si vous avez des lettres qui sont pures, vous savez les mettre ensemble, c'est tout. Le problème, c'est que il se trouve que Bezalel était dans un monde où les lettres avaient les scories. S'il était dans un monde déjà parfait, alors il aurait suffi de savoir les mettre bout à bout.
Donc,
Moshe Rabbeinu, peut-être, non, Hachem a inspiré Bezalel, c'est lui, il savait.
Et pourtant, Bezalel a fait une grande chose, certes.
Pardon ?
Bezalel a fait une grande chose.
Oui, c'est gentil de votre part de le reconnaître.
Non, Moshe,
il doit être très content.
Moshe, tout à droite, à chaque fois qu'on étudie, il y a Moshe.
Oui.
Bezalel, il est très discret.
Oui, c'était un petit jeune, hein. Il était juste bar mitzvah. Mais...
Je suis sûrement très ignorante, mais Moshe, on l'entend tout le temps. C'est vrai qu'on l'étudie dans nos prières, tout ça, il a fait une énorme chose.
Quand je dis que Moshe, je ne sais pas, en tout cas, peut-être que Moshe le savait aussi, je ne sais pas, mais c'était pas son job, c'est pas lui qui devait faire ça. Je ne connais pas de texte qui dise que Moshe aussi savait le Saref Otiot Shebaim Nivra Olam. Peut-être que c'est évident, mais j'en sais rien. En tout cas, c'est dit sur Bezalel.
Il a eu ce mérite comment?
Hachem l'a désigné comme tel. Mais si vous voulez, exactement comme Hachem a d'une certaine manière fabriqué Moshe. Vous vous souvenez, on avait dit dans les Shiurim de Pessah. Hachem a fabriqué Moshe. Il était adéquat pour sortir les Bnei Israël d'Égypte, pour recevoir la Torah, etc. Il était ad hoc, c'est vraiment, il était fabriqué pour. Alors, on pourrait penser, évidemment, que la Torah, c'est donc absolument extraordinaire, parce que ça donne ce pouvoir d'être créateur de monde. Enfin, par parenthèse, je vais peut-être dire ça, que j'avais pensé, il y a une discussion entre Rashi et les autres commentateurs pour savoir si Caïn et Hevel sont nés avant ou après la faute. Est-ce qu'ils sont nés? Rashi dit avant, mais tous les autres disent après. Pratiquement tous les autres disent après. Ceux qui disent après, alors ça ressemble à une théorie qui explique que la nécessité de se reproduire, si vous voulez, elle est la conséquence de l'existence de la mort. Parce que si on était éternel, immortel, on n'a pas besoin de se reproduire, on est là. Donc la reproduction, on peut la voir comme une façon de pallier la non-immortalité. Donc si on dit que Caïn et Abel sont nés après la faute, ça veut dire qu'ils sont nés quand on était déjà mortel. Alors quand on était mortel, alors on comprend, ils sont nés après, c'était nécessaire. Parce que sinon, le monde allait s'arrêter. Puisqu'ils sont devenus mortels, donc Adam et Chava sont mortels, et s'il n'y a pas d'enfant, ben c'est fini. Mais Rashi, qui lui dit qu'ils sont nés avant, il ne peut pas dire que ça vient pour pallier le défaut d'immortalité. Mais parce que, bon, ça je crois vous l'avoir déjà dit, hein, j'ai l'impression que pour Rashi, ce que Rashi veut dire, c'est que le monde, en fait, il était suffisant. Enfin, si Adam Arishon avait fait ce qu'il devait faire, l'histoire se serait arrêtée après, immédiatement. Adam Arishon a été créé quelques minutes avant la fin du quelques minutes avant Shabbat. Dans ce temps, dans ces quelques minutes d'après ça, les enfants sont nés aussi. Tout s'est passé à ce moment-là. Puisqu'avec la faute, il a été chassé. Donc, tout ça se passe dans le Gan Eden, avant. Et donc, ça veut dire que, puisqu'en même temps que Caïn et Hevel, il y a des jumelles qui sont nées. Il y a donc deux jumelles qui sont nées avec l'un et une jumelle avec l'autre. Certains disent que c'était ça la dispute entre Caïn et Hevel. C'est ce qui aura la troisième jumelle. C'est une histoire de femme. Voilà. Est-ce qu'il y avait trop de femmes dans le monde alors?
Comment?
Pardon?
Comment d'ailleurs, il y a toujours trop.
Oui, de c'est vrai, mais bon, mais ça c'est la biologie. Hein.
Il y avait trop de femmes, ils ont tué le seul homme. Mais avant la faute, il y aurait eu.
Alors justement, si avant d'après Rashi, si je comprends bien, il y avait donc il y avait Adam et Chava, il y avait Caïn et Hevel, et il y avait les trois jumelles. Donc ça veut dire qu'avant la faute, il y avait les relations conjugales, les relations filiales de parents-enfants, enfants-parents, il y avait des relations fraternelles entre frères, des relations sororales entre sœurs, et des relations frères-sœurs. Donc toutes les relations qui existent dans le monde, en fait. Quoi, la conjugalité, c'est... Ben, a priori, c'est... Ça se fait... Nous, on fait ça avec des étrangers. Mais bon, on peut dire qu'ils sont devenus étrangers. Le fait qu'ils aient une source commune, ben, nous aussi, on a tous... je sais pas, disons, ma femme et moi, on a une source commune. Il faut monter peut-être assez haut. Mais on a tous des... Les hommes et les femmes ont des sources communes. Peu importe que ce soit tôt ou tard, mais donc si vous voulez, on a un monde entier. Le monde était là. Rachid dit, ben, il y avait un monde. Il faut bien qu'il y ait un monde, puisque si Adam fait ce qu'il faut, c'est la fin du monde. Et si on n'avait de toute manière pas un monde, parce qu'il n'y avait pas, ces relations n'existaient pas, alors il faut dire ou bien on n'en avait pas besoin, c'est-à-dire ou bien tout ce qu'on voulait, c'est la relation entre un homme et une femme. Si on dit qu'ils sont nés après, ça veut dire que et s'il avait réussi, donc le monde se serait arrêté avec Adam et Rishon, mais qu'il y aurait eu dans le monde, dans ce monde qui s'arrête, un homme et une femme.
Ça fait déjà deux mondes.
Oui, ça fait deux mondes, mais je veux dire par là que ça, il faudrait imaginer que bon, ça suffit, on n'a pas besoin de plus de relations que ça. C'est bon, c'est une question sur laquelle vous pouvez réfléchir. Qu'est-ce que ça voudrait dire que... Qu'est-ce que ça veut dire, si j'ai raison, qu'est-ce que ça veut dire quant à la relation entre un homme et une femme? Ça voudrait qu'à la limite, la seule relation qui est fondamentale, c'est la relation conjugale.
Et qui contiendrait...
Parce qu'il y a la relation entre l'un et l'autre. Entre un et l'autre. Et une relation avec quelqu'un qui est radicalement autre. Ça aurait pu suffire, finalement. D'après ça, on peut dire que ça n'a pas suffi, justement. Parce que, peut-être parce que ce monde-là, il était créé de façon, peut-être déjà avec une certaine imperfection.
Mais maintenant, c'est bizarre parce que la Torah, elle était les plans du monde, mais disons que, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas comme ça. En tant que plan du monde, c'était planifié aussi qu'elle soit donnée à l'homme. Oh, si Adam n'avait pas de Torah, qu'est-ce qu'on faisait avec cette Torah qu'il fallait qu'on donne aux hommes?
Peut-être que la Torah ne devait être que le plan du monde. Elle existait déjà suffisamment puisqu'elle était à la base d'Adam et Chava.
Et peut-être que notre monde a été créé après Adam, puisque ça a été fait après la faute de l'homme. Et on a l'autre monde. Puisque celui d'Adam et Rishon n'a pas marché, il a fauté. Donc il y a un autre monde à partir de là.
Mais là, c'est, nous, on est dans le nouveau monde, on est dans le monde d'après la faute.
C'est difficile.
Et ce monde-là, il a d'une certaine manière pris fin.
On enlève l'histoire, mais.
À Shavuot. Il a pris fin, puisque à ce moment-là, les Israël sont les Bnei Israël, à ce moment-là, ils sont redevenus immortels. Et donc, ils recommencent Adam. On recommence avec Adam. Et le Chet HaEgel, c'est la répétition de la faute d'Adam et Chava. Et ça ne marche pas. Et après, il y a sans arrêt des recommencements. Parce que, ensuite, l'humanité s'arrête complètement. D'abord, il y a le déluge. Donc, il y a une quasi-destruction du monde. Après, on recommence avec cette fois-ci une famille. Là, du coup, de nouveau, là, ici, on recommence avec une famille. Là, tout le monde est d'accord. La famille de monsieur et madame Noach et leurs enfants et leurs femmes. Donc on recommence avec eux. Et ça échoue 10 générations après dans la tour de Babel. La tour de Babel, c'est terminé. Hachem dit c'est fini. L'humanité s'est définitivement fourvoyée. Et puis, il y a Abraham qui dit, moi, je suis prêt à faire le travail pour l'humanité. Donc, il fait ce travail, et tout rate, de nouveau, avec la dispute entre Yosef et Yehuda, etc. Et on descend en Égypte, et il faut tout recommencer, renaissance du peuple juif avec la sortie d'Égypte. Et puis au cours de l'histoire, il y a de nouveau la faute. Hachem dit à Moshe, laisse-moi, je vais les détruire, je vais continuer avec toi. Et Moshe dit non, je ne suis pas d'accord. Je ne marche pas. Donc quelque part, Hachem est obligé. Mais il détruit quasiment de nouveau le peuple juif, puisque après les explorateurs, pendant 38 ans, ils sont baladés dans le désert, ils sont morts chaque année, une tranche, jusqu'à ce qu'il reste quasiment plus personne de ceux qui sont sortis d'Égypte et qui vont entrer en Eretz Israël. Et puis ensuite on entre en Eretz Israël, et puis ça va de mal en pis. D'accord ? Et puis ça finit par l'exil des 10 tribus, l'exil de. Le royaume de Yehuda, Nebuchadnezzar, destruction du Beth Amikdash. Et on recommence. Deuxième Beth Amikdash. Les Hashmonaïm, enfin la guerre civile là. Hashmonaïm, Kabim. Destruction de nouveau du deuxième Beth Amikdash. Exil. Et voilà, et on est là. C'est sans arrêt qu'on entend des essais qui ne marchent pas, qui recommencent, etc.
Qu'est-ce qu'on doit faire à Shavuot pour améliorer? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Faire Tchouva. Mais pas seulement à Shavuot, ce soir aussi.
C'est quand même interpellant.
Ouais.
Ces échecs qui se. Est-ce qu'on refait sur le même schéma?
Non, mais ce n'est pas exactement le même schéma. À chaque fois, on. Il y a des petites modifications. Mais bon, c'est marqué dans le pasouk. Sheva yipol tzadik vekam. Le tzadik, il tombe 7 fois. Et tout le monde dit que c'est beaucoup plus que 7. Mais l'important, c'est qu'il se relève. L'important, c'est de se relever. On tombe, personne n'a jamais appris à marcher sans tomber. Mais il faut se relever. Il faut croire qu'on a à gagner, puisque si on pose qu'il y a un terme, alors on a gagné, on a avancé. On n'est pas devenu meilleur, mais on est plus près du but. Quel que soit l'éloignement du but, on est quand même plus près qu'on était hier, si vous voulez.
On va plus faire de fautes. On avance dans le temps, on fera plus de fautes.
C'est seulement tout à la fin. Parce que là, on a encore le temps de faire quelques petites fautes. Non, je... Alors, ce qui est important ici, ce avec quoi on est terminé, donc je vais faire 5 minutes sur le nouveau truc, c'est que David HaMelech, il demande à Hachem, dans Tehilim, il lui demande Gal enai v'habita niflaot mitoratecha. C'est-à-dire, ouvre mes yeux, découvre mes yeux, dessine mes yeux, et je pourrais contempler, je pourrais voir des niflaot, des choses extraordinaires dans ta Torah. Donc David HaMelech, il dit, si tu n'ouvres pas mes yeux, j'y arriverai pas. L'extraordinaire, la Torah est extraordinaire, mais je ne suis pas capable de voir. Moi, je ne peux pas y arriver. Il faut que tu m'aides. Et on voit les psukim qui vont dans le sens de David. Mais Moshe Rabbeinu, il dit le contraire. Moshe Rabbeinu, dans la Torah, Moshe Rabbeinu dit le contraire. Moshe Rabbeinu dit, cette Torah, elle onifleti mimcha. Cette Torah, elle n'est pas extraordinaire au sens, elle n'est pas hors de ta portée. Mimcha, ça dépend de toi. Si tu travailles, alors tu peux accéder à la Torah. Donc tout est possible, c'est pas extraordinaire. C'est une chose très importante. Ça veut dire que les choses dépendent de notre investissement dans l'étude de la Torah. Ça dépend combien on prend les choses au sérieux, combien on s'investit justement. Le Ramchal, on a vu dans le Da'at Tevunot, il explique que si Adam Harishon avait réussi son épreuve, donc le monde aurait été, comme on l'a dit, réparé, ça aurait été la fin du monde. Ça veut dire que, d'une certaine manière, tous les efforts que nous faisons, et que nous allons faire durant toute la période, disons, de 6000 ans, tout ça, Adam Harishon pouvait obtenir le même résultat en une seconde. Ne pas céder au Nahash.
Dieu a fait le monde pour qu'on l'homme, pour qu'on le loue, pour qu'on le glorifie. Même s'il n'y avait pas l'histoire, faire beaucoup d'hommes qui le glorifient, Hachem, en somme, Adam et...
La plus grande glorification, c'est qu'on obéisse à Hachem.
C'est ça. Quand il ne pas céder au Nahash, il dit que la tentation.
Pardon, c'est...
C'est l'état avant que la tentation.
Oui, tout ça, oui. Mais la question est que, on voit de ce qu'on avait vu précédemment, que s'il avait réussi son épreuve, alors la Torah, il aurait reçu la Torah. Mais à quoi sert la Torah dans un monde où il n'y a plus rien à faire? On est à la fin de l'histoire, il n'y a plus d'enjeu, on est à Triat HaMetim, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec la Torah? Donc on entend bien ici que le Yetzer Hara, il est ce qu'on appelle Tavlin. C'est-à-dire, pardon, le Yetzer Hara, c'est le mal, et il y a un Tavlin, il y a une épice en fait, qui est la Torah, qui est la seule épice qui rend le Yetzer Hara comestible. Si on doit servir Hachem aussi avec le Yetzer Hara, mais comment on travaille ce Yetzer Hara pour qu'il soit comestible, en quelque sorte? C'est uniquement grâce à la Torah. Donc le Yetzer Hara, il est la condition nécessaire pour un développement de la Torah. Pour la Torah, d'ailleurs. Puisque la Torah, hein, si, quand les Malachim se sont opposés à Moshe, quand Moshe est venu pour prendre la Torah, pour la descendre dans le monde, les Malachim et Acharet ont dit non, on ne la laisse pas partir. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit, mais vous avez un Yetzer Hara, vous n'avez pas de Yetzer Hara, à quoi vous sert la Torah? Avec ça, il a gagné. Mais maintenant, nous, on est dans la même situation. Si on est dans Triat HaMetim, enfin, on n'y est pas encore, mais au moment de Triat HaMeti, au moment du temps, au temps de Mashiach, etc. Si effectivement on a déjà réglé les problèmes, on n'a plus besoin de la Torah, on n'a plus Yetzer Hara, parce que c'était la raison pour laquelle il l'a prise, il a disqualifié les Malachim, mais maintenant nous, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Rabbi Rucham, le maître de Rabolbe, il disait que si l'Yetzirah n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer pour qu'on ait à lutter contre lui, parce que le seul moteur de toute notre étude de la Torah, de l'avancée en quelque sorte, c'est aussi le seul moteur de l'avancée du monde, c'est l'Yetzirah. Sans l'Yetzirah, il n'y a pas de dynamique, il y a pas de, c'est tout statique, ça ne bougerait pas. Donc en vérité, le Yetzer Hara, c'est ce qui représente une espèce de faim et de soif pour la Torah. C'est le moteur qui nous pousse à la Torah. Souvenez, j'ai vu avec vous cet exemple là de l'enfant. Vous l'avez vu. Un enfant qui ne mange pas à midi. Et l'après-midi, il brinque sa mère. Maman, donne-moi un bonbon, maman, donne-moi du chocolat, maman, achète-moi une glace, maman, donne-moi à boire, etc. La mère, elle sait que la raison de ces demandes-là, c'est parce qu'il a faim, parce qu'il n'a pas mangé. C'est-à-dire, au fond, ce qui le motive, c'est ce qui le met en mouvement, cet enfant, sans que lui en soit conscient. Mais c'est parce qu'il n'a pas mangé, c'est parce qu'il a faim. Mais lui, il ne le sait pas. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le Yetzer Hara, qui nous dit fais ça, etc., en vérité, derrière ce Yetzer Hara, il y a aussi une fin avec Hara. Il y a une fin de Torah. Et on essaie de compenser, de faire que cette faim ne nous empêche pas de vivre, en fait, avec toutes sortes d'artifices. C'est les bonbons, le chocolat, du gosse, etc. Mais sauf s'il voulait vraiment régler le problème, il faudrait qu'il s'asseye et qu'il mange sa soupe, et qu'il mange du pain et qu'il mange sa soupe. Et nous, c'est la même chose. En vérité, le Yetzara, pour le faire taire, il faut se remplir de Torah.
Donc c'est un révélateur d'un manque de...
Il est l'expression d'un manque de Torah. Mais le manque de Torah peut se manifester de toutes sortes de manières.
On écrit avec ce manque.
Oui, mais maintenant, nous, on nous l'a donné, la Torah. Donc voilà, tu dis. Le Rambam, il écrit... Enfin, pour le comprendre, il faut peut-être passer par ce qu'il dit, Ramban d'Armanide. C'est marqué dans la Gemara que Abba le Taher, mais ça aïe noto. Celui qui vient pour bien faire, on l'aide. Une aide. Si tu veux vraiment bien faire, ce qu'on te demande d'une certaine manière, c'est ta volonté. On n'a pas beaucoup plus que la volonté. Le pouvoir, on ne l'a pas toujours. Les obstacles, les difficultés, etc. Mais le problème, c'est la volonté. Si on arrive à produire cette volonté, alors on nous aide. Mais le Rambam explique après, dans le Parashat Nitzavim, il dit, aval limot ha-mashiach, au temps du Mashiach, tiyeh abechira batov lahem beteva. Mais au temps messianique, de choisir le bien, ça viendra naturellement. Et on fait remarquer que le Rambam aurait pu dire qu'on sera obligé de faire le tov. Il dit pas que on n'aura pas le choix, on sera des robots qui sont obligés de faire le tov. Mais il dit naturellement on choisira. C'est une bechira de choisir le tov. Il semble donc de là que même au temps messianique, il va falloir choisir le tov. Ce sera un choix. Parce qu'il faut pas qu'on, on peut pas comprendre les psukim du Navi qui disent que la terre sera remplie de connaissances d'Hachem comme la mer, etc. Parce que si c'était comme ça, on a l'impression que c'est ce que les gens dans le Moussa, ils appellent ça mitzvot anashim melumada. C'est une espèce d'automatisme, on fait les mitzvot par automatisme. Il n'y a pas beaucoup de valeur. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas une fin de la parole d'Hachem, la Torah, c'est pas quelque chose d'intéressant. Si on n'a pas une faim, si on ne veut pas vraiment, si on n'a pas... ça nous prend au ventre parce qu'on a faim. Par le traditionnalisme, si on veut, c'est-à-dire le faire les choses parce qu'on les a faites hier, etc. Ça ne peut pas remplir de date. Le passage qui dit « La terre sera remplie de discernement, etc. » Mais le pshat, c'est que au temps messianique, il y aura une fin qui sera une fin pour le spirituel comme la fin pour le matériel. Et de la même manière que quand on a faim pour le matériel, on est bien obligé de manger. On ne peut pas se soustraire à ça. Mais ce sera la même chose pour la faim spirituelle. Et bien entendu, le mérite qu'on acquiert en choisissant entre le bien et le mal, dans la guerre contre Yetzer Hara, on ne l'aura plus au temps messianique. Parce que Yetzer Hara n'existera plus à ce moment-là. Mais le mérite de la Torah, il sera encore là. Parce que la Torah, elle ne va pas disparaître avec la disparition du mal. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on ne peut pas régler le problème du mal sans la Torah. Et que la Torah est un tavlin. Mais elle n'est pas que cela. Parce que sinon elle devrait disparaître. Si on fait disparaître le mal, la Torah devrait disparaître également. Il n'en est rien, la Torah va rester. Parce qu'elle n'est pas que cela. C'est ça que le Rambam dit, « Nitavu kol Israël neviyem v'chachmehem limot ha-mashiach. » Il dit que les prophètes et les sages d'Israël ont désiré les temps messianiques. Pas seulement ceux qui ont vaincu le Yetzer, etc. Mais que eux le désirent, ça on comprend très bien. Mais tous les Bnei Israël. Même les gens simples qui n'ont pas vraiment vaincu le Yetzer Hara, qui ne sont pas... Mais leur désir du Mashiach n'est pas du tout... Ils voudront le Mashiach, ils le veulent pas seulement parce que ça, ils savent pas se battre autrement en quelque sorte. Le Rabbi Israël Salanter disait, qu'est-ce qu'on va faire si demain le Mashiach vient et qu'on n'a pas fini notre travail? On n'a pas fini de travailler sur nos midotes, On est encore des gens qui se mettent en colère, on est encore paresseux, etc. Ben, on va être honteux. C'est vrai que, comme Rambam dit, les prophètes, les chachamim, c'est normal qu'eux, ils désirent les temps messianiques. Parce que, les temps messianiques sont venus pour eux, quoi. Quelque part, ils les ont fait venir, ces temps messianiques, par leur façon de faire. Et donc, quand on veut, ils voulaient, ils ont eu Siyata d'Ishmaïa, ils ont eu l'aide du ciel. Mais nous, on doit, il faudrait qu'on réussisse dans la guerre contre les Yetzer Hara, puisque si on n'a pas le mérite de cette victoire, alors on n'aurait pas non plus le mérite de vivre les temps messianiques. Mais bien entendu, même au temps messianique, même au temps de Triat HaMetim, il y aura de la Torah. Sans la Torah, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a pas de monde, en quelque sorte. Donc la Torah, c'est une Torah qui est valable dans toutes les situations, y compris dans les situations où on pourrait penser qu'on a plus... Elle est plus fonctionnelle pour régler les problèmes du Yetzer Hara. Et néanmoins, elle a une raison d'être. Elle a néanmoins, en fait, il y a néanmoins une soif de Torah qui n'est pas simplement une soif de Torah pour arriver à vaincre le Yetzer Hara. C'est vrai que la Torah est le Tavlin, elle est vraiment ce qui va permettre de rendre le Yetzer Hara comestible. Mais il n'est pas que ça. Et le désir de la Torah, parce que c'est la parole d'Hachem, en fait. Il y a une volonté d'être aussi proche d'Hachem que possible. Et cette proximité avec Hachem, elle n'est possible que par le biais de la Torah. On n'a pas d'autre moyen d'être proche d'Hachem.
Ce sera vécu comme une gâterie, comme une douceur.
Oui, mais mais bien sûr, c'est une...
Il n'y a plus la lutte contre
On n'a pas besoin de... Ça ne sera pas fonctionnel, en quelque sorte. Rabbi Yocham, il voulait expliquer que cette soif, elle permet de comprendre ce que dit Rabbi Yonah. Rabbi Yonah, il parle de celui chez Maasav Merubim Mechokhmato, celui dont les actes sont plus nombreux, c'est-à-dire, que sa sagesse. C'est-à-dire, il en fait plus que ce qu'il comprend. Alors, il demande, mais comment, qu'est-ce qu'il fait puisqu'il ne le comprend pas? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va faire plus que ce qu'il comprend? Ça n'a pas de sens. Pourquoi il serait amené à faire des choses, il ne les comprend pas? Pourquoi il les ferait? Alors il explique que, en fait, quand on dit Ma'asav Merubim, ça veut dire il accepte de faire ces choses-là. Il ne sait pas encore comment on va les faire, mais il est prêt à les faire. Il y a un ratson, il y a une volonté de faire. Mais il rapporte que son maître, Rabbi Yocham, ici, il pose contre cette explication une question. Il dit, mais ça non plus, il ne pouvait pas l'accepter. Pourquoi il pouvait accepter de faire alors qu'il ne savait pas du tout ce qui était à faire? Ça ne veut rien dire, je vais accepter, mais je ne sais pas quoi. Lui, il voulait expliquer justement avec ça, hein, que ça vient de cette soif de la parole d'Hachem. C'est-à-dire, d'avoir été privé de la parole d'Hachem pendant tout le Galout Mitzrayim, pendant tout l'exil. Et au moment de la Geoula, ça s'est ouvert en quelque sorte, la source s'est ouverte, la Kabbalat HaTorah. À ce moment-là, il y avait une telle faim, une telle soif de parole d'Hachem. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté la Torah. C'est la parole d'Hachem. On accepte. On a soif de la parole d'Hachem, même si on ne sait pas encore du tout ce que c'est. Donc, on accepte sans savoir du tout ce que c'est. Par soif, en quelque sorte. Comme quelqu'un qui a tellement soif qu'il se précipite et il boit sans savoir ce que c'est. C'est un risque, évidemment. C'est dans le Nasa Vinishma. Ça revient de... C'est une explication sur le Nasa Vinishma aussi. C'est une acceptation de... On va faire, mais comment il pouvait savoir si on ne sait pas quoi faire? On ne peut rien faire. Après ça, on peut dire... Le Nasa voulait dire... Bon, on va faire par amour, par désir de la parole d'Hachem. Et on sait qu'Hachem va nous aider à comprendre ce dont il s'agit. Là-dessus, on peut discuter, je pense. C'est ça, ça peut être discutable. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Voilà, on va s'arrêter là. Pas complètement terminé, mais...